Alléluia. Vous allez bien? Non? Non? Vous allez très bien, c'est ça. Hein? Amen. Tournez avec moi sans plus tarder dans l'Épître aux Romains. Vous savez, nous sommes dans cette série. Ça fait déjà 8, 9, 10 semaines quand même. Hein? On en est au chapitre? Non? On est au chapitre 8. On en est au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et si vous n'étiez pas avec nous, vous pouvez les retrouver. Malheureusement, il y a quelques enregistrements qui ont été loupés, mais ils sont presque tous sur Internet. Donc, et le chapitre premier aussi qui introduit la série. Donc, si vous avez manqué, vraiment, c'est une série très, très importante. Et ce soir, on va regarder quelque chose de... On va regarder un chapitre qui est vraiment primordial. Et en étudiant le chapitre, j'étais très, très encouragé parce que j'étais jaloux du pasteur Pierre Fauchy, qui, il y a deux semaines, a enseigné sur le chapitre 7. Pourquoi? Parce que le chapitre 7, c'est un chapitre que je chéris particulièrement. C'est un chapitre que j'ai beaucoup étudié. J'ai toujours rêvé prêcher le chapitre 7. Et quand on a fait le planning des pasteurs, on n'a pas tout calculé comme ça selon ce qu'on voulait. Hein. On a regardé selon ce que tout le monde avait besoin. Et il s'est tombé sur pasteur Pierre. Et là, j'étais dégoûté que ce soit lui. Mais quand j'ai entendu son message, j'étais béni, j'étais encouragé, je ne sais pas pour vous. Amen. Et quand j'ai vu que ça tombait sur moi, le chapitre 8, je suis allé étudier le chapitre 8, et là, j'étais encore plus ravi. J'ai dit, Seigneur, tu me fais une fleur, là. Alors, vous allez voir, ce soir, c'est un chapitre extraordinaire, en fait, parce que... Et comment Dieu organise les choses? Croyez-vous que le Seigneur est au contrôle de cette Église? Je suis profondément convaincu. Je suis profondément convaincu que je ne contrôle rien, que c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Amen. Parce qu'on a fêté la Pentecôte dimanche. Et la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Et le chapitre 8, c'est le chapitre du Saint-Esprit. Dieu dirige toutes choses. Hein? Le Seigneur savait, oh, les pasteurs sont arrangés pour que ça tombe comme ça. Non, on n'a rien fait pour que ça tombe comme ça. Hein? Franchement, on n'a rien arrangé pour que le chapitre 8 tombe aujourd'hui. Mais je pense que dimanche, on a proclamé la Pentecôte. Et ce soir, on va expliquer la Pentecôte. Amen. Parce que quand on est chrétien, on vit des choses que parfois on ne comprend pas trop ce qu'on vit avec le Seigneur. Et il faudra attendre très longtemps. On sait, on l'a vu ensemble, l'apôtre Paul, c'est peut-être vers 67, 68 ans qu'il a écrit l'Épître aux Romains, donc il est assez âgé. Et l'Église, elle a maintenant du vécu. L'Église, elle a peut-être une quarantaine d'années déjà. Et les chrétiens ont vécu des expériences avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Et parfois, ils ne comprenaient pas trop ce qu'ils vivaient. Et Paul va bien expliquer dans le chapitre 8, et on va voir quelque chose de très, très intéressant. Plusieurs théologiens et commentateurs de la Bible disent que l'Épître aux Romains, ce serait comme si je peux l'exprimer ici ce soir, l'Épître aux Romains, ce serait comme les Alpes des écrits du Nouveau Testament, hein, comme une chaîne de montagnes, mais que le plus haut sommet de cette chaîne de montagnes, de tout ce que Paul a écrit dans l'Épître aux Romains, ce serait le chapitre 8 qui arrive vraiment où il culmine, parce que le chapitre 7, si vous étiez avec nous, si vous n'étiez pas avec nous, vous avez vraiment manqué quelque chose de bon. Mais le chapitre 7, c'était le problème de la chair, le problème de l'homme. Si vous vous souvenez, hein, c'est Paul dit, je fais les choses que je ne veux pas faire, je ne fais pas les choses que je veux faire, je vois une loi en moi, dans ma conscience, dans ma tête, dans ma conscience, dans ma moralité, je voudrais plaire à Dieu, mais je trouve quelque chose d'autre en moi, il y a une force qui me tire vers le mal. C'est vrai, hein, que c'est comme ça la vie. Et même quand on veut marcher avec Dieu, on est surpris parfois qu'on va aller par là et tout à coup, il y a quelque chose qui nous tire vers ailleurs, hein, vers le mal. Et puis, on arrive à la fin du chapitre 7 où Paul s'exprime de joie et dit « Gloire soit rendue à Dieu à cause de Jésus-Christ ». Le chapitre 7, il finit là. Mais qu'est-ce qui est si merveilleux à propos de Jésus? Chapitre 8. Amen. Et maintenant, on va voir quelque chose ensemble ce soir de très intéressant. C'est tellement le chapitre de l'Esprit de Dieu, que regardez quelques faits juste en introduction aujourd'hui, c'est tellement le chapitre du Saint-Esprit que l'Esprit de Dieu y est mentionné 20 fois dans ce chapitre. Ça serait probablement l'endroit de tout le Nouveau Testament où il y a le plus de mentions du Saint-Esprit. Il y a un autre chapitre qui mentionne beaucoup le Saint-Esprit, vous allez voir un petit peu plus tard, c'est sur les dons de l'Esprit. Il est presque à tous les deux versets, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, fait par l'Esprit. L'Esprit y est l'acteur principal, mais le personnage central, c'est le chrétien. Comprenez bien ceci. L'acteur principal, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui agit. Mais le personnage principal du chapitre, c'est toi et moi. En d'autres mots, c'est lui qui me change. Amen. Chapitre 7, au secours, qui viendra à mon secours? Si vous n'avez pas lu le chapitre 7, vous ne devriez pas lire le chapitre 8. Parce que le chapitre 8, c'est la continuité du chapitre 7. Chapitre 7, « Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Je suis un pauvre pécheur, et si vous croyez que vous ne l'êtes pas, eh bien, c'est que vous êtes un ange ou vous êtes quelqu'un d'une autre planète. Mais nous, les êtres humains, on est déçus nous-mêmes. Même le meilleur des chrétiens, il n'est pas arrivé au bout encore. On est régulièrement déçus nous-mêmes. Hein? Je ne sais pas si je suis seul. Vous êtes, oui, OK, merci, vous m'encouragez. » Et puis on arrive au chapitre 8, le Saint-Esprit arrive. Il est l'acteur principal, il est l'acteur, celui qui agit. C'est lui l'acteur principal, mais le personnage central de tout le chapitre, c'est mon cœur. Donc en d'autres mots, c'est lui qui va changer mon cœur. On va voir ensemble comment il va le faire. Paul expose comment l'Esprit déploie le caractère de Christ en nous. Donc, c'est vraiment une explication, une exposition. Vous ne verrez pas beaucoup d'attributs. Il y en a peut-être un ou deux attributs du Saint-Esprit. Une ou deux fois dans le chapitre, Paul dira, l'Esprit, il est comme ceci, l'Esprit, il est comme cela. Mais ce n'est pas le but de ce chapitre. Le but de ce chapitre, ce n'est pas de nous expliquer qui est le Saint-Esprit, mais plutôt comment il s'y prend pour changer ma vie. Je vais vous dire pourquoi c'est important que vous compreniez ceci ce soir. Parce que si vous comprenez et que vous acceptez comment Dieu travaille, il pourra travailler en vous. Mais quand on refuse la façon de Dieu, Dieu est un gentleman, il est respectueux. Si on refuse sa façon de travailler, le Seigneur, il attend qu'on soit mieux disposé. Il ne force pas les choses. Le Seigneur ne travaille pas sans notre volonté. Il travaille notre volonté et quand il a notre volonté, là, il peut rentrer et vraiment changer nos vies. Donc, si ce soir, on peut comprendre comment Dieu s'y prend pour changer ma vie, et si on l'accepte, Dieu va changer nos vies. Amen. Alléluia. C'est le plus grand problème de l'homme. Vous devriez dire amen. Romains 8 parle du caractère de Christ qui est développé en nous. Et l'autre chapitre dans la Bible qui parle le plus de l'Esprit de Dieu, c'est 1 Corinthiens 12, c'est sur les dons de l'Esprit. Mais Romains 8 parle plus de l'Esprit que 1 Corinthiens 12, et cela c'est pour nous montrer que le caractère chrétien est plus important que les dons spirituels. Tu peux faire tous les dons spirituels que tu veux, tu rentres chez toi, tu te comportes mal, ça discrédite tout. C'est vrai, hein? J'aime mieux un chrétien qui ne fait pas les dons spirituels, mais qui a un bon témoignage, qu'un chrétien qui fait tous les dons spirituels pas possible, et puis de l'autre côté, il y a un témoignage qui déshonore le Seigneur. Ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas possible. Et la Bible nous montre que, et Paul parle plus du Saint-Esprit dans Romains 8 que dans 1 Corinthiens 12. Donc, on croit aux dons spirituels, on aspire aux dons spirituels, on recherche les dons spirituels, on est ouvert aux dons spirituels, on croit vraiment que les dons spirituels sont importants, mais les dons spirituels viennent après le caractère chrétien. Le caractère chrétien est extrêmement important. Je ne suis pas en train de dire ce soir qu'il faut attendre d'être parfait pour exercer les dons spirituels, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est le but de ce chapitre, c'est pour nous montrer que le premier, le plus grand but de Dieu, c'est de changer nos vies par le Saint-Esprit. Paul expose comment l'Esprit de Dieu déploie le caractère de Christ en nous. Et maintenant, regardez bien ceci. Les bénédictions et privilèges essentiels conférés aux chrétiens se retrouvent toutes ici, en un seul mot, le caractère chrétien. Maintenant, le caractère, la définition du caractère, c'est ceci. C'est la marque appliquée d'une chose sur une vie. C'est un tempérament. Et ce qui est très intéressant pour nous de voir maintenant, dans un instant, c'est comment le Saint-Esprit s'y prend pour amener une marque appliquée de Christ dans ma vie, une marque appliquée de Christ dans mon tempérament. Le Seigneur ne va pas changer mon tempérament, il va le purifier. Vous êtes ce que vous êtes. Timothée est très différent de moi, et physiquement, et dans son tempérament. Juste un petit peu, une petite ressemblance ici, là. Mais pour le reste, on ne se ressemble pas. On n'a pas du tout le même tempérament, on n'a pas le même caractère. Et le Seigneur ne veut pas donner un autre caractère à Timothée. Il veut purifier son caractère. Et la seule façon que Dieu a déterminée de toute éternité, il ne va pas changer ses plans. On ne peut pas changer Dieu, c'est à nous d'ouvrir nos cœurs pour qu'il nous change. Dieu ne va pas changer sa façon de travailler. La seule façon dont Dieu va amener le caractère d'un homme et sa personnalité, son tempérament à être purifié, c'est en faisant grandir le caractère de Christ en lui. Le but de Dieu, ce n'est pas que vous soyez sauvés, vous avez votre ticket pour aller au ciel et vous passez votre vie assis à l'aéroport en attendant le départ du vol. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a des chrétiens, ils sont comme ça. Ils ont leur ticket, je vais au ciel, je suis sauvé, c'est bon. Ils s'assoient à l'aéroport céleste, ils attendent que Dieu vienne les chercher. Non. Quand tu es sauvé, c'est le début. Starting block, c'est la ligne de départ. Amen. Et Dieu commence un travail. Amen. Alléluia. La venue du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pour débuter un travail en nous, de faire grandir le caractère de Christ. Et que le caractère de Christ laisse une marque imprégnée, visible dans mon tempérament, dans ma vie, dans mon caractère, que les gens voient. Et moi, il n'y a rien de plus beau pour moi que quand ma femme me dit, « Franchement, chérie, tu changes. Ça s'en vient. Ça m'encourage. » Voyez-vous, j'ai abdiqué, je ne travaille plus sur moi-même. Il y a des gens qui disent qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Bon courage. Moi, je ne travaille plus sur moi. J'y crois pas. J'y arriverai pas. Ça, c'est chapitre 7. Chapitre 7, c'est Paul dit, j'ai tout fait pour me changer, j'y arrive pas. Chapitre 8, il est fini, il est KO, il s'en remet à Dieu. Et il finit chapitre 7 en disant, merci Seigneur pour Jésus, c'est lui qui va me changer. Amen. Amen. Et là, on arrive au chapitre 8, le chapitre du Saint-Esprit. Et on va voir deux choses ensemble rapidement ce soir. On va voir le caractère scellé. En fait, le Seigneur il y a quelque chose qu'il a déjà fait et il y a quelque chose qu'il va faire, OK? Premièrement, qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Parfois, on s'énerve pour rien, les choses sont déjà faites. Il y a une chose qui est déjà faite, c'est que le caractère est déjà scellé contre les éléments extérieurs. Je m'explique. Ça a l'air très philosophique ce que je dis, mais alors c'est très pratique et très simple. C'est très, très fort. Il n'y a que la Bible, c'est pour ça que je suis super excité. Quand j'étudiais, je suis allé voir ma femme. « Ah, regarde, c'est trop beau. » Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Le chapitre commence en disant quelque chose et il termine en disant une autre chose. Les deux choses, premier verset et dernier verset, font une boucle qui scelle le chapitre 8. Je vais vous montrer ces deux choses. Les deux choses qui sont très importantes, c'est que premièrement, au verset premier, on va le lire ensemble si vous le voulez bien. « Maintenant donc, il n'y a plus de... » Ah, je ne vous ai pas entendu là. Vraiment, je suis super déçu. Attendez, je vais vous donner une deuxième chance qu'on fasse comme une chorale. Tu es prêt, Timothée? Tu auras une belle chorale ce soir. Maintenant, il n'y a plus de... Hallelujah. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Parce que parfois, nos fautes nous rattrapent. Parfois, notre conscience nous rattrape. Le passé nous rattrape. L'ennemi nous rattrape. Les gens nous rappellent. Et Paul, il met un saut. Maintenant... Chapitre 7, je suis vraiment un pauvre pécheur. Je n'arrive pas à être meilleur. Par Jésus-Christ, chapitre 8, c'est fini, c'est fermé. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Hallelujah. Mais on va aller directement à la fin du chapitre. Verset 39, chapitre 8. Et le verset 39. Ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, il commence en disant « plus de » et il termine en disant « plus de séparation ». Hallelujah. Face à tous les éléments extérieurs, personne ne peut amener une condamnation sur ma vie. Et personne ne peut me séparer de mon Jésus. Ça veut dire quoi? Le passé est réglé, le futur est réglé. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Et Paul ferme la boucle du chapitre avec le premier et le dernier verset. Plus de condamnation, plus de séparation. Ça veut dire que tous les éléments extérieurs qui viennent contre le chrétien sont anéantis. Par la foi, simplement par la foi en Jésus-Christ. Je n'ai plus de condamnation. Dieu ne peut pas répondre à tes prières parce que tu n'es pas assez bon. Wow, plus de condamnation. Tu as trop de boulot. Tu es trop occupé. Il y a trop de charges sur ta vie. Tu es une mère seule. Tu as des enfants élevés. Non, tu n'arriveras jamais à suivre le Seigneur. Plus de séparation. Tu es fatigué. Tu t'endors en lisant la Bible. Tu crois que tu es spirituel. Wow, plus de séparation. Tout ce qui peut nous séparer de Jésus, c'est fini. Si tu veux. Tous les éléments extérieurs qui viendraient, des hommes, Satan, n'importe qui, le passé, le présent, le futur, tout ce qui vient contre toi, plus de condamnation, plus de séparation. Amen. Mais attention, là vous dites amen, mais tantôt vous allez dire « ouch ». Parce que Dieu a un plan, lui. En fait, il a éliminé les éléments extérieurs pour pouvoir avoir notre cœur à lui pour le changer. Alors, on dit « Amen, Alléluia », mais Dieu est en train de nous aseptiser dans une salle tout aseptisé. Vous savez, les salles de chirurgie, il n'y a plus aucune bactérie, il n'y a plus aucun petit virus, il n'y a plus rien. Tout est propre pour qu'on puisse travailler dans le cœur. C'est ce que Dieu a fait dans le chapitre 8. Il a tout enlevé les éléments extérieurs, mais maintenant, il va rentrer à l'intérieur, il va changer nos cœurs. Donc, mon caractère est scellé contre les éléments extérieurs. C'est très, très fort parce que même au verset 3, bon, je n'ai pas le temps de tout lire ce soir, le temps passe tellement vite, mais au verset 3, Paul dit, c'est Dieu l'a fait. Dites avec moi, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu tous les éléments extérieurs. Amen. Ça veut dire que pour Dieu, je suis en Jésus-Christ. Pour Dieu, je suis saint. Mon cœur est pur aux yeux de Dieu. Mais quand je regarde à l'intérieur de mon cœur, je dis, mais mon cœur, il n'est pas pur. Dieu dit, non, c'est bon. J'ai tout fermé, tout scellé pour les éléments extérieurs, mais maintenant, je vais changer ton cœur. Ce qu'on appelle la sanctification. Tu as la justification, tu as l'adoption. Ça, je t'ai fermé, je t'ai scellé pour moi. Tu m'appartiens, tu es ma fille. Mais maintenant, je vais travailler ton cœur. Je t'adopte dans la famille. Je te protège à l'intérieur de la maison de tous les dangers extérieurs. Mais maintenant, je vais t'éduquer selon les normes du royaume de Dieu. J'étais un orphelin perdu au fond de nulle part. Je suis devenu un prince héritier. Maintenant, Dieu va m'apprendre à marcher comme un prince, à vivre comme un prince, à me comporter comme un prince. Amen. Alléluia. Donc, le caractère est scellé contre les éléments extérieurs, on l'a vu. Et maintenant, le caractère est affiné, comme l'or au creuset, dans le secret du cœur. Et là, on va voir ensemble ce soir ceci. C'est que comment est-ce que le Saint-Esprit s'y prend pour changer nos cœurs? On peut dire beaucoup de choses sur la sanctification. On peut dire, et on ne peut pas tout dire ce soir. Il y a encore tellement de choses qui pourraient être dites. Mais je vais vous montrer l'élément central, essentiel du chapitre 8. C'est que Dieu change la direction de nos désirs. C'est comme ça que Dieu travaille. Si Dieu peut changer l'orientation de tes désirs, tu seras sanctifié. C'est très simple. Par exemple, un homme est attiré vers quelque chose de mal. Il essaie de plus y aller. Il arrive à la fin du chapitre 7, il est fini, il n'en peut plus, il est épuisé. J'essaie de plus aller vers le mal, je n'y arrive pas. Il se rend à Dieu, le Saint-Esprit vient dans sa vie, et le Saint-Esprit change l'orientation de ses désirs. Il ne désire plus ce qui est mal, il désire ce qui est bien. Parce que ce que tu désires, c'est là où tu es fort. Non? La plus grande force de l'homme, ce sont ses désirs. C'est vrai, hein? Non? C'est extrêmement vrai ce que je dis. Ce que tu désires, tu vas te mettre en mouvement pour l'avoir. Tu vas te dépenser, tu vas dépenser de l'argent, du temps, tu vas étudier, tu vas tout faire, tu vas appeler des gens, tu vas déployer de l'énergie, du temps, de l'argent, des relations, des gens. Ce qui te passionne, tu vas le poursuivre. Et Dieu le sait. Il le voit. Alors, s'il peut changer tes passions, tu es sanctifié. Ton cœur est purifié. C'est comme ça que tu travailles. On va le voir ensemble. Hallelujah. Le désir est la plus grande force de la nature. Le verset 2 dit ceci. On va le lire ensemble si vous le voulez bien. Verset 2. La loi de l'Esprit qui nous donne la vie par l'union en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. OK? Là, Paul, si on ne comprend pas trop le grec, on peut être perdu. Chapitre 7, il dit, « Je vois dans la loi ce qui plaît à Dieu, mais je n'arrive pas à le faire. » C'est vrai, hein? Donc, Paul va mêler deux sortes de lois. Mais parce que tu ne lis pas le grec, tu dis, « Mais de quoi il parle? » Il va mêler la loi juridique, la loi morale, et il va mêler des lois physiques, des lois spirituelles, des lois de force. OK? Donc, quand il parle de la loi de Dieu, il parle d'une loi qui est morale. OK? Mais là, quand il dit « La loi de l'Esprit m'a libéré de la loi du péché », ça veut dire quoi? Là, il ne parle pas de loi morale, il parle de force, d'attraction. Il y a des lois physiques. La force d'attraction fait que... Je vais pas faire tomber mon téléphone. La loi d'attraction fait qu'il y a une force qui tire la bouteille vers le bas. Tu vois? Et là, Paul dit, la loi de l'esprit m'a libéré de la loi du péché. En d'autres mots, ça, c'est la loi du péché. Pauvre mec. Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Je vais être un bon chrétien. Je vais être un bon chrétien. Vraiment, je vais devenir, tu vas voir. Seigneur, Seigneur, je vais faire tout ce que je peux pour m'approcher de toi. Et à un moment donné, il arrive au bout du chapitre 7, j'y arrive pas. Et là, qu'est-ce qui arrive? Viens ici, JB. Tiens la bouteille. Tiens la haute. La loi de l'esprit m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Lâche la bouteille. Ça, c'est le Saint-Esprit. La loi d'attraction est encore là, mais il y a une nouvelle loi qui arrive. La loi du péché fait tomber, pas tout de suite. Je vais te montrer la fidélité de Dieu qui ne nous lâche pas. Hein? J'ai debout. Mais la loi de l'Esprit m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça, merci JB, franchement, tu es un super pote. Un bon équipier. Ça, c'est le chapitre 8, tout au complet. L'homme voulait plaire à Dieu. Il s'est mis des lois, il s'est fait des religions. Et encore aujourd'hui, autour de nous, il y a des gens qui, à travers toutes sortes de religions, font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de plaire à Dieu. Ils n'y arrivent pas. Ils sont toujours attirés vers le bas. Mais Paul dit, la loi de l'esprit, donc une loi d'attraction, une force nouvelle arrive par la Pentecôte. La loi de l'esprit m'a libéré de la loi du péché. Et maintenant, le Saint-Esprit me tire vers le haut. C'est pour ça que la Bible dit, nul ne cherche Dieu. Les hommes ne cherchent pas à Dieu. Les hommes ne s'intéressent pas à Dieu. Mais quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit change les choses. D'abord, il nous convainc de péché, de justice, de jugement. Et là, on dit, j'y arriverai pas. Seigneur, au secours, viens m'aider. Franchement, c'est tout ce que le ciel attend en passant. Hein. C'est tout ce que le ciel attend, c'est qu'on dise au secours. Viens m'aider, je n'y arriverai pas, j'ai besoin de toi. Et quand on se rend, Dieu se rend au rendez-vous. Seigneur, je me donne à toi. Toi, change mon cœur. Toi, donne-moi de saints désirs. Toi, tourne mes yeux vers des bonnes choses. Amen. Tourne mes pensées, change mes pensées. Là, on se surprend. Ah ben, attends, si vous êtes chrétien, vous savez de quoi je parle. Tout à coup, tu dis, j'ai une de ces envies, ah oui, de se faire un film. Non, 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 je ne sais pas pourquoi là, ce soir. J'ai vraiment une de ces envies de lire le chapitre 9. Tiens. C'est vrai, hein? Le Saint-Esprit change nos désirs. C'est extraordinaire. Et c'est ça que Paul dit. La loi de l'Esprit m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, c'est une loi, c'est une force d'attraction. L'attraction de l'Esprit est plus puissante que l'attraction du péché. Le Saint-Esprit change réellement nos désirs. Ce qui nous attirait nous répugne. Dieu, qui ne nous intéressait pas, fait fondre nos cœurs. Nous pensons moins à nous-mêmes et nous pensons plus aux autres. Parce qu'il y a d'autres lois aussi. La loi de l'homme sans Dieu, et j'aime bien parce que la Sommeur, elle va dire l'homme livré à lui-même, tu vois? Et quand on est livré à nous-mêmes, on pense qu'à nous-mêmes. Ne vous laissez pas prendre. Même les gens qui aident les autres sans Christ le font pour des intérêts. C'est impossible. Impossible sans la vraie nature de Christ de vraiment aimer les autres. Mais quand on a la nature de Christ, on est Dieu grandit en nous. Et comment il est Dieu? Car Dieu a tant aimé qu'il a. Il a donné. Et quand on s'approche de Dieu, on a envie de donner, on a envie de dire, t'as l'air pauvre, tiens, je vais t'aider ce soir. Tu vois? Puis, Pierre, on dirait que t'as soif. Tiens. On change. Mais quand on vit sans Dieu, il est comme ça, l'homme. C'est vrai, hein? Dieu change. Il change les directions. Amen. Nous pensons moins à nous-mêmes et nous pensons plus aux autres. Verset 4. On voit les exigences de la loi. Verset 4. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons non plus à la manière d'un homme livré à lui-même, vous voyez ce que je veux dire, mais dans la dépendance de l'Esprit. J'aime bien cette traduction. Hallelujah. Verset 6. Quand tu vis par l'Esprit, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie et prend plus de place, eh bien, c'est extraordinaire, le Saint-Esprit produit la vie et la paix. Ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort. C'est vrai. Plus tu penses à toi, plus tu es malheureux. C'est vrai. Plus tu te vautres dans les plaisirs du monde, plus tu creuses ta tombe. Et même la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et là, Paul dit, mais celui qui tend vers ces choses, tend vers la mort. C'est grave. Les gens se détruisent en pensant qu'à eux-mêmes. Mais regardez ce qu'il dit. Tandis que ce à quoi tend l'esprit, avez-vous remarqué, il n'a pas parlé de moi? Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je tends vers la mort. Mais l'esprit tend vers autre chose. C'est l'esprit de Dieu en moi qui tend vers autre chose. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Paul a dit, je suis le pire des pécheurs. Il a dit ça vers la fin de son ministère. C'est grave, hein? Mais tu es le grand apôtre Paul. Tu as guéri des malades. Non, je n'ai jamais guéri de malade. C'est Christ. Tu as fondé des églises. Je n'ai jamais rien fait, moi. C'est Christ. Moi, je sais qui je suis. Moi, je suis vraiment un pécheur sans Christ. Oh, mais tu es quand même, tu as de la valeur. Tu es quand même quelqu'un. Non, non, non. Je sais qui je suis sans Christ. Je sais ce à quoi je tends sans Christ. Mais ce à quoi tend l'Esprit en moi, si j'ai de saints désirs, c'est le Saint-Esprit. Si ce soir je me tiens devant vous et que j'aime la parole de Dieu, ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Si vous saviez à quoi il tend Christian Robichaud, vous l'auriez donné un bon coup de pied, vous auriez dit « tu sors d'ici ». Et on sera tous sortis, hein, parce qu'on est tous des pécheurs. C'est la nouvelle vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ce à quoi tend l'Esprit, je suis perdu. À quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. Donc, quand le Saint-Esprit redirige nos désirs, il nous amène vers des choses qui amènent la paix et des choses qui amènent la vie dans notre vie. Amen. On continue verset 5 et verset 9. L'Esprit est la force assurée de tous les vrais chrétiens. Verset 5. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est mal et conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Avez-vous remarqué? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il tend vers des nouvelles choses. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est ta force. Vous savez pourquoi je mets l'emphase ce soir? Je comprends de plus en plus pourquoi Paul dit « N'attristez pas l'Esprit ». Il dira même, n'éteignez pas l'Esprit. Oh, quand j'attriste le Saint-Esprit, il y a une force que je perds. Quand on reste sensible à l'Esprit, soumis à l'Esprit, à l'écoute de l'Esprit, on gagne de la force. Quand on prend pas le Saint-Esprit au sérieux, le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne force pas son œuvre. Si le Saint-Esprit te dit, ne va pas là, tu y vas, tu vas perdre la force. Je te garantis, c'est ce que la Bible enseigne. Tu vas attrister l'esprit, tu vas éteindre l'esprit. La force du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et parfois, les gens, oh, c'est pas grave. Si le Saint-Esprit te dit, ne regarde pas ce truc à la télé, et tout à coup, vous savez, parfois, le Saint-Esprit nous parle avec des petits sentiments. T'es pas bien. T'es juste pas bien. Les collègues, ils font du blabla contre le patron, et vous êtes tous autour des sushis, là, puis tout à coup... Le Seigneur te dit, tu ne participes pas à cette discussion. Et là, tu souris, tout le monde rigole contre le patron, là, tu n'es pas trop bien. Tu es mieux de perdre tes collègues, mais garder le Saint-Esprit. Parce que si tu ris avec tes collègues contre le patron, tu vas attrister l'esprit, tu vas perdre ta force. Et parfois, les chrétiens sont faibles. Les chrétiens qui sont faibles parce qu'ils ont attristé l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre force. Amen. Alléluia. On continue. Je vais plus rapidement, vous pouvez voir les versets, verset 9 aussi en parle. Maintenant, en terminant ce soir, en conclusion. Nous sommes complètement, nous l'avons vu, nous sommes complètement indépendants du péché par le Saint-Esprit. Il change la force d'attraction. Mais terminons avec cette vérité exceptionnelle ce soir. Nous sommes complètement dépendants du Saint-Esprit. Je suis complètement indépendant du péché par l'Esprit, mais je suis complètement dépendant du Saint-Esprit pour vaincre le péché. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Regardez ce que Paul dit. Paul dit ceci. Il dit, c'est très très fort, versets 12 et 13, on va le prendre ensemble. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, on peut vraiment dire ceci, en grec c'est un devoir, devoir quelqu'un. Un devoir, si nous avons une dette envers quelqu'un, ce n'est pas envers l'homme, livré à lui-même, donc envers moi-même, je ne me dois rien pour vivre à sa manière. Car si vous vivez à la manière de l'homme, livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions mauvaises, on l'a vu ensemble par la force de l'Esprit, vous allez vivre, vous vivrez. Amen. Maintenant, regardez bien ce qu'il dit, c'est très fort. Si nous avons des obligations, et le mot ici, en grec, littéralement, ça signifie si nous sommes débiteurs, si nous devons quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas à nous-mêmes, c'est à l'Esprit de Dieu. Donc, je termine ce soir en disant ceci. L'Esprit de Dieu est le plus beau cadeau de Dieu pour changer nos vies et même nous aider à ce que d'autres vies changent. OK? Jésus a dit, si vous venez à moi, des fleuves d'eau vive couleront de vous. C'est fort ce qu'il a dit. Donc, mais les fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut passer à travers toi pour bénir quelqu'un. Donc, le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau de Dieu. Vrai? Mais on a une dette envers le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit. Paul dit « débiteur » en grec. Nous sommes débiteurs envers le Saint-Esprit. Nous devons quelque chose à l'Esprit. J'ai une dette envers le Saint-Esprit. C'est laquelle? On va le voir dans un instant. Nous avons une dette envers le Saint-Esprit. C'est un devoir. Et le mot signifie « être tenu de fournir quelque chose à quelqu'un ou de reconnaître le mérite d'un autre pour le profit personnel. » Donc, la première chose que je dois au Saint-Esprit, c'est de reconnaître que toute la gloire est à lui. C'est ça. Si je fais quelque chose de mal, c'est moi. Si je fais quelque chose de bon, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, la première chose que je dois à l'Esprit, c'est de reconnaître que c'est lui qui change ma vie. Et c'est lui qui sert de moi. Mais la deuxième chose que je dois à l'Esprit, c'est très fort, parce que ça veut dire que je suis tenu de lui fournir quelque chose. Qu'est-ce? Je n'ai pas le temps ce soir, vous êtes trop nombreux. Mais si j'étais avec un petit groupe, je ferai un tour du groupe, j'aime bien faire parler les gens. D'après toi, qu'est-ce qu'on doit au Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Si tout est accompli par Jésus, si on ne peut rien offrir à Dieu qui lui soit agréable, si on ne peut lui faire aucune offrande qu'il n'a pas déjà, qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il que désire-t-il? Quelle est ma dette envers lui? Une seule chose. Toi. Donne-moi ton temps. Intéresse-toi à moi. JB, je vais être la source de ta vie. Je vais changer ta vie. Je vais, à travers toi, devenir des fleuves d'eau vive pour que tu bénisses d'autres. Mais tu me dois une seule chose. Aime-moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais je suis un pécheur, c'est pas grave, je t'ai choisi. Je suis pas digne, c'est pas grave. J'ai pas beaucoup de temps, donne-moi le peu de temps qui te reste. Mais quand je suis au boulot, je dois me concentrer sur mon travail, sinon je vais perdre mon boulot. Je comprends bien ça. Mais quand tu es dans le métro, tu as un peu de temps, donne-moi du temps. Quand tu es à la maison, tu as un peu de temps. Donne-moi un peu de ton temps. C'est tout ce que Dieu demande. Et là, c'est pas moi, vous n'êtes pas d'accord, il faut aller voir le Seigneur. Parce que c'est vraiment écrit, nous sommes débiteurs. Amen. Et c'est tellement fort. Regardez ce que ça dit. Au verset 4, il va parler de la dépendance de l'Esprit. Au verset 9, il va dire, vous dépendez de l'Esprit. Je suis constamment dépendant du Saint-Esprit et je suis débiteur envers le Saint-Esprit. Je dépends de lui et je lui dois quelque chose. J'ai besoin de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Et je termine avec ceci. mais je dois quelque chose au Saint-Esprit. Juste mon cœur. Mon cœur, mes pensées. Le Saint-Esprit dit, tu me dois de la louange. C'est ça qu'il te dit ce soir. Tu me dois de la prière. Tu me dois de chercher ma face. Intéresse-toi. La seule chose que je te demande, c'est approche-toi de moi. Je ne peux pas prêcher un autre évangile, je suis désolé. Hein. C'est le seul évangile que je crois. Tu veux t'approcher, Pierre? On va terminer en prière. Je termine avec une histoire qui m'a vraiment interpellé dans mes études lundi. Vous savez, je vais vous montrer une photo de Joseph Vernet qui peignait faisait des tableaux des porcs pour le roi à l'époque, au 18e siècle. Je ne sais pas si on peut montrer la dernière photo. Ouais, voilà. Et ça, c'est le port de Toulon. Okay? Si vous regardez au milieu du port, je ne sais pas si tu peux faire apparaître la flèche. Clac. Non, tu rappuies, touc, et puis il y a une flèche qui va apparaître. Voilà. Vous voyez les petites boîtes? Vous voyez les petites boîtes au milieu? Elles sont très particulières. Ce sont des coffres remplis de gros cailloux et ils flottent. Impressionnant, hein? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, quand on voulait faire un mât et qu'on voulait que le mât d'un navire soit très solide, il fallait sécher le mât. Et la seule façon, il fallait faire sortir la sève qui était restée dans le tronc d'arbre. C'était un tronc d'arbre qui allait devenir le mât du voilier. Et ce mât est extrêmement important pour le capitaine parce que ce mât allait résister à des tempêtes. Il allait être constamment sous tension. Il fallait qu'il soit très fort, très dur. Et la seule façon que le mât pouvait être dur, il fallait faire sortir la sève. Et à l'époque, les hommes ont tenté toutes sortes de façons de le faire sécher au soleil. Et le faire sécher au soleil, ça faisait sécher la sève, mais elle ne sortait pas. Et les mâts cassaient. Et les hommes ont découvert que la seule façon de faire sortir la sève du mât, c'était de mettre le mât dans l'eau. Il fallait qu'il reste sous l'eau. Et avec l'eau, il y avait cet échange extraordinaire. L'eau faisait sortir la sève du mât. L'eau prenait la place de la sève. Après, on sortait, on faisait sécher et le mât était solide. Mais pour que le mât reste sous l'eau, on mettait des caisses remplies de cailloux pour bien, bien, bien enfoncer le mât dans l'eau. Suivez-moi bien. C'est comme ça que Dieu travaille. La sève, c'est ma vieille nature. Il faut qu'elle sorte. La seule façon que la chair va sortir de ma vie, il faut que je sois dans l'eau de la présence de Dieu. Mais je vais vous dire comment Dieu s'y prend pour m'amener dans sa présence. Je ne sais pas pour vous. Il m'amène des cailloux. Il m'amène des problèmes. Si vous maturez en Jésus-Christ, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand tout va bien, on n'a pas trop l'impression qu'on a besoin de Dieu. Hein? Mais quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur! Quand ça va bien, c'est les copains. Quand ça ne va pas bien, c'est le Seigneur. Alors, ce que Dieu fait, c'est quand tu dis, Seigneur, sers-toi de moi. Ah ouais? JB, tu veux vraiment que je me serve de toi? Seigneur, sers-toi de moi, je t'en prie. Il te prend. Et il te met des cailloux. Et là, tu commences à avoir des problèmes. Et on dit en anglais, needs drive you to your knees. Les problèmes nous font plier les genoux. Et parfois, le Seigneur, il garde des fardeaux dans ta vie pour te garder sous l'eau. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il va faire de toi un mât. Il va faire de toi une colonne dans sa maison. Il va faire de toi quelqu'un qui est solide. Il fait sortir la sève. Et toi, tu te dis, mais pourquoi, pourquoi? Je suis dans des problèmes, je suis dans des moments difficiles de ma vie. Oh, Seigneur, Seigneur, je suis toujours dans la parole. Oh là là, je ne peux pas m'éloigner de la prière. Je suis toujours en train de chanter, de louer, pas parce que ça va bien, pasteur. Oh, je suis dans la louange, mais parce que j'ai vraiment besoin de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il te garde sous l'eau parce qu'il te prépare. Parce qu'après, le Seigneur élève un mât qui va tenir des voiles, qui va sauver des vies, qui va porter des marins. Dieu sait ce qu'il fait. Mais il n'y a que l'eau qui fait sortir la sève. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vaincre et changer ma vie. Amen. il faut être sous l'eau. Il faut aller dans la présence de Dieu. Amen. Là, on va terminer ce soir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Hallelujah. J'aimerais faire un appel ce soir, mais pas devant, juste là où vous êtes. Si vous voulez juste commencer à dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. » Peut-être que tu dis, « Pasteur, je suis sous l'eau. » Il y a comme cette caisse de cailloux, de fardeaux qui est sur ma vie. Le Seigneur sait ce qu'il fait dans ta vie. Il faut que tu arrives au chapitre 8. Il faut que tu sortes du chapitre 7. Il faut que tu dises, Seigneur, je ne me changerai plus par mes propres efforts, Seigneur. Toi, change-moi, Seigneur. Je n'essaierai plus de travailler sur moi-même par moi-même, Seigneur. Je veux le faire avec toi, Seigneur. Je veux que ton esprit me change, Seigneur. Hallelujah. Paul dit même dans ce chapitre, faites par l'esprit mourir les œuvres de la chair. Je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te guérir du passé. Tu ne peux pas pardonner sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir sans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est dans l'intimité, c'est dans le lieu secret d'abord, c'est dans la présence de Dieu. Hallelujah. C'est donner, même si tu n'as pas beaucoup de temps, donne du temps au Saint-Esprit. Hallelujah. Pour chercher sa face ce soir. Hallelujah. Hallelujah. Tournons nos cœurs maintenant vers le Seigneur. Maintenant, réponds au Seigneur. Réponds au Seigneur. Après avoir entendu ce chapitre extraordinaire, tout est bouclé, mon ami. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de séparation, mais il doit maintenant s'opérer une transformation dans ta vie. Hallelujah. Et dis-le au Seigneur, Seigneur, viens me changer, Seigneur. Seigneur, je vais être sous l'eau avec toi, Seigneur. Je vais être dans ta présence, Seigneur. Je vais être près de toi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Prépare-moi pour le service, Seigneur. Prépare-moi pour te servir, Seigneur. Demandez-lui ce soir, prépare-moi pour la prochaine étape, Seigneur, de ma vie. Hallelujah. Fais de moi un mât qui est solide, Seigneur. Je veux être dans ta présence. Je veux être préparé pour ton service dans ta présence, Seigneur. Sous l'eau, dans les eaux vives de ta présence, je veux être formé pour te servir, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, je veux même te dire merci pour ces fardeaux qui me tiennent à genoux, Seigneur. Merci pour ces trucs, Seigneur, qui ne sont pas changés, Seigneur. Ces soucis que tu n'as pas encore retirés de ma vie, Seigneur. Merci. Je te dis merci, Seigneur. Il me garde à genoux. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour l'Esprit. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Hallelujah. Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour que je puisse vivre par l'Esprit. Hallelujah. Tout est gratuit. Mon amitié, mon intimité avec Jésus est gratuite ce soir. Et accessible. Hallelujah. 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 Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Hallelujah. Amen. Juste avant de se séparer, Paul termine en disant, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » J'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Hallelujah. Tendons nos mains vers le Seigneur Jésus. Amen. Hallelujah. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a pas de séparation, Seigneur. Nous rentrons à la maison unis en Jésus-Christ. Hallelujah. Il n'y a rien dans ce monde qui peut me séparer de l'amour de Jésus. Rien. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Dites-le au Seigneur. Merci, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation, Seigneur. Et dites-lui, Seigneur, je te remercie, Seigneur. J'ai cette transformation intérieure grâce à toi, Saint-Esprit. Hallelujah. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lui donner une grande acclamation? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Prenez un instant aussi pour vous saluer les uns les autres. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole.